Audiolib présente Le volume du temps, tome 4 de Solveig Balle, traduit du danois par Terje Sinding, lu par Gretel Delatte. Numéro 1892. Difficile de savoir à quel endroit se termine telle chose pour laisser place à telle autre. À quel endroit commence ou se termine une personne. À quel endroit une autre lui succède. On croit le savoir en voyant l'espace qui les sépare. 5 personnes devant une grille qui s'ouvre. Elles viennent de sonner à l'interphone et attendent qu'on leur réponde. Sans former un bloc compact, elles constituent pourtant un groupe. Elles ont sans doute vu la même chose lorsque nous sommes sortis, un groupe humain. 4 personnes s'approchant de la grille sans former un bloc compact. Et il y a maintenant 9 personnes dans la maison. 9 personnes qui se sont rencontrées à la grille et qui s'en souviennent, qui se souviennent de s'être dirigées les unes vers les autres. Nous courions presque, tandis qu'elles paraissaient hésiter, si tant est qu'on puisse encore hésiter quand on s'est décidé à sonner. Anton Yanas, vêtu d'un par-dessus de laine grise, Rosalie Torpa, qui préfère qu'on l'appelle Rosie avec l'accent sur la dernière syllabe, et Sonia Mirbeck, qui a appuyé sur la sonnette avant de rejoindre Peter Astello, dont la main s'est posée sur l'épaule de Sonia quand la grille s'est ouverte. Elle s'est ouverte parce que Ralph s'est précipité sur l'interphone lorsque la sonnerie a retenti. Nous étions dans l'entrée, en train d'empiler les cartons de vivres. Le vacarme nous a fait sursauter et Ralph est sorti sur le perron. Il n'a d'abord aperçu qu'un groupe de gens près d'une voiture. Il n'a pas pu voir leur nombre exact, mais puisqu'il venait de sonner, il a actionné la télécommande de la grille. Nous l'avons rejoint dans l'allée. Henri d'abord, puis Olga et moi. Nous n'avons pas tardé à apprendre que les nouveaux venus cherchaient une personne du nom de Ralph et qu'ils étaient prisonniers du 18 novembre. Nous les avons fait entrer en les aidant à manœuvrer leur voiture pour franchir la grille. C'était Peter qui conduisait, et Ralph lui a indiqué où se garer près de la remise. Je ne me rappelle pas exactement où se tenait Marlis Maurer, sans doute un peu en retrait, car je ne l'ai remarqué qu'en arrivant devant la maison. La grille s'est refermée derrière eux. Ils se sont frayés un chemin entre les cartons qui encombraient l'entrée et nous avons parlé de flocons d'avoine. Car le contenu des cartons, c'était ça, des flocons d'avoine et des biscuits salés à l'origan. Marlis a un peu tardé à nous rejoindre car ses lacets s'étaient défaits. Après les avoir noués, elle a fini par pénétrer dans l'entrée où elle s'est arrêtée pour jeter un coup d'œil sur l'escalier conduisant à l'étage et les portes ouvertes donnant sur les salons. Elle venait de s'essuyer les pieds, mais à la vue du parquet à motifs géométriques composé de plusieurs essences de bois, elle a insisté pour enlever ses chaussures. Alors que nous étions toutes les deux en chaussettes, par égard pour le sol, je l'avais imité, elle m'a appris qu'on trouvait souvent ce genre de parquet dans les maisons de cette époque. Mais elle n'a pas pu en parler plus longuement, car les autres réclamaient une visite guidée. Bien qu'ils aient vu la villa de l'extérieur, ils devaient être surpris en découvrant à quel point elle était grande. De notre côté, nous étions étonnés par la soudaine animation qui régnait, une